Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Toute Moon, diffusée sur Alternante. Dans cette émission, chaque mois, je reçois une personne ultramarine ou d'origine ultramarine, de tout milieu, pour tenter de comprendre comment ils vivent leur relation à leur terre, très souvent distante de plusieurs milliers de kilomètres. Nous avons pris nos quartiers à l'espace Louis Delgrès, siège de l'association Mémoire de l'Outre-mer. Et pour ce deuxième épisode, je reçois Monsieur Nicolas Chéry-Zécoté, président de l'association Métis à Nantes. Bonjour.
Bonjour à vous.
Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour parler de votre parcours. Nous allons commencer par le tout début. Et quand je dis le tout début, c'est le tout début. Vous êtes donc né en Martinique. Vous avez grandi dans la commune de Saint-Joseph. Qu'est-ce qui, selon vous, fait partie de la culture martiniquaise en termes de tradition, de nourriture et même de musique?
Je suis en réalité martiniquais. Papa martiniquais, maman martiniquaise. Donc culture vraiment antillaise, culture que nous avons vécu et grandi avec. Et nous avons appris à regarder comment font nos parents pour devenir aussi et garder cette identité, parce que la culture, c'est notre identité. C'est vrai que ça fait des kilomètres quand on quitte nos Antilles pour venir ici, mais tout cela est dans nos têtes. Partout où nous serons, nous irons et nous aurons notre identité en nous-mêmes.
Pour être plus concret, dans la vie de tous les jours, quand vous avez grandi là-bas, qu'est-ce qui... selon vous, après c'est compliqué parce que c'est vrai que quand on grandit quelque part, ça paraît naturel, c'est notre milieu, voilà. Mais avec le recul, qu'est-ce qui fait partie vraiment de cette culture? Qu'est-ce qui aujourd'hui, avec le recul, on se dit ça c'est le goût de la Martinique, ça c'est l'odeur de la Martinique.
Pour aller par exemple à la messe, on savait très bien que on devait avoir une tenue du dimanche. Donc ça c'est vraiment typique et on devait savoir aussi que les histoires des grandes personnes ne concernent pas les enfants et donc il y avait beaucoup de respect. Donc ça aussi, ça fait partie des Antilles. Et aussi, moi je pense que c'est tous ces souvenirs-là qui nous permettent de rester ce que nous sommes.
À 16-17 ans, vous décidez de partir à l'aventure et de devenir marin-navigateur. À quel moment et pourquoi avez-vous décidé de partir?
Oui, parce que j'ai fait une formation à l'école maritime de Trinité. Après cette formation, nous étions appelés à voyager. Donc j'ai eu mes premiers voyages pour partir sur un gros bateau, c'est des cargos. C'est des énormes cargos qui nous faisaient faire un voyage de plus de 15 à 17 jours en deux mers. Donc nous quittions nos parents, j'étais tout très jeune, 16 ans, on quittait les parents. Nous étions entourés d'adultes et on partait pour l'aventure. Donc cette aventure nous emmenait par exemple des Antilles jusqu'en Europe. Et dans ces moments de voyage, on apprenait... Le travail du marin, parce que j'étais matelot. Le matelot, c'est-à-dire a fait de la garde des bateaux, l'entretien des bateaux, parce que dans le bateau, il y a plusieurs sortes de travail. Il y a la machinerie, ceux qui sont sous le pont, et moi, j'étais sous le pont. Tout ce qui est sous le pont, c'est les matelots, et en bas, c'est machinerie. Et donc, après, nous chargeons les marchandises au Mexique, du tabac, la banane, tout ça. On les rapportait pour monter en Norvège, à Rotterdam, à Amsterdam. Et on revenait aux Antilles, on repartait, ça a duré au moins une dizaine d'années comme ça. C'était super intéressant.
Comment on se dit, je vais être marin, je vais partir à l'aventure, je vais quitter la maison. À quel moment vous vous êtes dit ça?
Non mais je me suis dit ça, c'est parce que c'était la recherche de métier. Puis il y avait l'opportunité de faire ce concours que j'ai fait et puis j'ai été accepté. Donc, une fois qu'ils l'ont accepté, on nous lançait dans la formation de ce métier. On a eu nos examens et puis nous sommes entrés dans ce métier qui est marin navigateur. C'était très, très dur parce que la compagnie générale transatlantique commençait à ne plus avoir de bateaux, ne plus avoir de place. Et pour nous, les jeunes qui arrivions, c'était la priorité aux anciens. Donc, ça nous donnait des difficultés à être toujours au travail. Donc, il a bien fallu changer d'horizon, changer de cap professionnel. Et ensuite, il y a l'armée. Il est arrivé à l'armée, nous sommes partis à l'armée.
Alors, on ne va pas griller les étapes, hein. Parce qu'on n'a pas encore fini avec le rôle du marin navigateur. Peut-être juste une petite précision sur la composition de l'équipage. Alors, a priori, vous étiez plusieurs Antillais, si j'ai bien compris.
C'est la compagnie générale atlantique, il y avait beaucoup d'Antillais qui naviguaient. Et nous qui arrivions, ben, nous étions bien accompagnés par eux, puisqu'ils étaient là pour nous apprendre le métier. Ils étaient déjà prêts à partir à la retraite et nous permettons de prendre la relève. Ça consistait surtout à conduire le bateau, puisqu'il y avait des cars à faire, à l'entretien du bateau, c'est-à-dire à préparer les peintures, la propreté du bateau, mais aussi à préparer aux arrivées dans les ports. Comme quand on arrive dans les ports, il faut mater le mât, il faut monter dans le mât. C'était très, très chaud pour nous, surtout quand nous arrivons dans les pays nordiques, comme ça, là, il faisait très froid. Et puis aussi, il faut avoir déjà l'âme de voyager, l'âme de bouger. Et je l'ai toujours en moi.
Petite question, et puis on va clore le chapitre marin navigateur. Comment vos parents ont réagi quand ils ont su ce que vous vouliez faire? Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Est-ce qu'ils vous ont dit, mais t'es fou, tu vas pas partir à des millions de kilomètres de nous quand même?
Non, mes parents m'ont encouragé, puisqu'il fallait qu'ils payent quand même les études que j'ai faites. Donc, il fallait qu'ils s'assument ça. Et le fait qu'ils assument ça, ben, leur souhait, c'est que je réussisse et que je parte. Donc, quand j'ai su que j'avais été l'examen et que je savais qu'il y avait un bateau que je devais m'embarquer sur le bateau et partir, même pour les quitter pendant 3 mois, ils avaient hâte de revoir leur fils. Et je crois qu'ils m'ont dit que j'ai changé en 3 mois. Ils n'ont plus envie de la même manière. En ce temps-là, je pense que c'était une façon de quitter la maison, de grandir et puis de commencer à être un homme, commencer à voir les choses différemment.
D'ailleurs, petite question, c'était donc la première fois que vous quittiez l'île et que vous vous êtes confronté un petit peu au reste du monde. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme premières impressions là, je sais pas, en arrivant dans les différents ports? Vous avez parlé du Mexique, la Scandinavie. C'était quoi les pensées d'un jeune Martiniquais de 17 ans à cette époque?
Déjà, le temps qu'on a mis pour y arriver, déjà le temps, 17 jours de mer, ce temps-là. Et puis arriver dans un pays où on n'imaginait pas comment que c'était. Et puis aller à la rencontre des gens, parce qu'on sortait du bateau, on allait rencontrer les gens. Et puis on avait aussi l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres marins navigateurs, des jeunes comme moi qui se rencontraient et qu'on parlait de notre première expérience de voyage, comment ça s'était passé, comment nous avons ressenti la mer. Il y avait des tempêtes quelque part, nous n'étions pas habitués à ça. Mais après ça, arrivé dans les ports, ben, nous étions heureux de descendre, d'aller visiter, de voir des choses que nous n'avions pas l'habitude de voir, des yeux qui étaient remplis de choses merveilleuses. Moi, je pense que ce sont des très bons souvenirs. Et dans les premières années, c'était ce qui est fort, c'est la découverte. Aller à la découverte de l'autre.
Présentez.
Eh bien, après avoir pris la mer, une autre aventure vous attend. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'armée. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de là où vous avez fait l'armée?
Ah ouais, oh là là. Ouais, j'ai fait l'armée à Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, c'est une petite île qui est à côté de Toulon, où pour y aller, il fallait prendre le bateau. Donc, nous avons fait le stage à Houtin, et donc j'ai été muté là-bas en tant que commando marin dans le corps des bérets verts. C'est des corps d'élite de France, de l'armée. J'ai appris à faire un saut en parachute, parce que j'ai eu pas mal de sauts, j'ai 37 sauts de parachute. Et moi, je trouve que c'était un super moment de la vie, ça se passait bien. Mais c'est quand nous sommes entrés dans la vie active, la vie où on commence à être un homme, prendre ses responsabilités, et qu'on voit que parfois, lorsque vous allez chercher du travail, comment vous êtes refusé, quand vous allez chercher un logement, et tout en sachant que vous n'avez jamais fait de différence de couleur, même si vous le voyez, mais ça ne se répétait pas. Mais quand on vous le dit, ce n'est pas, c'est pas pareil. Et donc, mes premières confrontations, c'est douleur de mon histoire, c'est quand j'ai été refusé d'un emploi que j'aurais pu avoir, mais qu'on m'a dit que, tenez, quand j'étais noir, je ne pouvais pas l'avoir. Et donc, c'est là qu'on ne souriait plus. Et donc, il fallait choisir quelque chose. Donc, je sais pourquoi j'ai comme ça, c'est que j'ai rencontré l'association Mémoire d'Outre-mer à travers M. Octave Sestor, donc, qui était déjà président de l'association, et que je lui ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors, il m'a dit, il m'a conseillé de porter plainte parce que normalement, on était défendu quand même. Hein. Il y avait des lois pour ça. Mais non, on n'a pas fait. Donc, ce qui fait que j'ai continué, j'ai persévéré, puis j'ai trouvé du travail. C'était plus un problème. Mais n'empêche que cette aventure m'a permis de rencontrer M. Sestor et ça m'a vraiment intéressé, le travail sur la mémoire, sur l'histoire. Et comme ça, j'ai pu apprendre finalement qui j'étais vraiment. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Je savais que j'étais un Antillais, mais je ne connais pas mon histoire, puisque on m'a toujours dit que nous étions des Gaulois. Et j'avais quel âge ? Une bonne trentaine d'années par là. Hein, puisque j'étais à l'armée, je fais tout ça, j'ai grandi, je travaillais. Mais je n'avais pas rencontré la vie associative. Et c'est dans la vie associative qu'on, comme cela, qu'on apprend à savoir plein de choses sur soi-même.
On va peut-être revenir sur le moment où vous êtes arrivé à Nantes. Donc, c'était après l'armée, après Toulon. On est en quelle année à peu près ?
On est en 72.
Vous êtes donc arrivé à Nantes, pas par hasard. C'est parce qu'il y avait de la famille. Ça paraît. Est-ce que vous connaissiez un petit peu cette ville avant de venir y vivre ? Ou alors, vous avez juste entendu parler et puis... comme la famille était là, tout simplement, vous êtes venu.
Pendant mes voyages, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de venir à Nantes. À Nantes, on est venu débarquer de la farine, du sucre, justement à l'usine Béguincé, là, sur le bateau, le cargo où j'étais. Et mon frère habitait déjà à Nantes. Hein. Et donc, c'était avec plaisir que j'avais revu mon frère après des années. Après, j'ai une sœur à moi qui est venue à Nantes aussi. Et j'avais déjà aussi ma grande sœur aînée qui était déjà ici depuis l'âge de 17 ans, qui s'appelait Fanfan. Et donc, ça veut dire que je savais que je reviendrais à Nantes parce que le sang familial est très important pour nous.
Donc, vous arrivez à Nantes. Est-ce que vous connaissiez l'histoire, le passé sur la traite négrière de Nantes ?
À vrai dire, je dirais non. Non, pas du tout. Nantes a été pour moi un port comme j'arrivais à n'importe quel, comme j'arrivais à Bordeaux, comme j'arrivais en Allemagne, Amsterdam, tout ça. On allait, on se promenait, tout ça. J'ai commencé à connaître mon histoire, donc mon histoire qui est de Nantes. Après avoir être bien impliqué dans l'association et bien comprendre la place que je devais prendre, Et parce que c'était important que ce travail-là soit fait. C'est un travail que j'ai compris, c'est un travail de mémoire et que moi, personnellement, ça m'a vraiment intéressé de m'impliquer là-dedans. Parce qu'à travers ça, on avait le choix. Quand vous entendez des choses aussi méchantes, c'est soit vous révolter, révolte par la violence, ou bien choisir une autre voie comme celle que j'ai choisie, dont je suis très fier aujourd'hui encore. C'est celle de la compréhension, de faire comprendre aux gens que nous faisons partie de la société, comme tout le monde. Nous avons notre histoire. Et nous avons une histoire très, très riche. Pas belle, mais elle est là. Et on doit faire avec. On doit grandir avec. Et aussi apprendre que si nous ne l'avions pas appris auparavant, c'est parce que quelque part, il y avait un problème. Parce que nos parents ne nous ont jamais parlé de ça. Donc aujourd'hui, j'étais en phase de dire, eh bien moi, non. J'apprendrai qui je suis, j'apprendrai à mes enfants, j'apprendrai aux autres notre histoire. Et voilà, aujourd'hui, je suis bien dans ma tête et je suis fier de tout ce que je vous dis que nous avons fait.
Aujourd'hui, c'est vrai que le passé de Nantes est assumé, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, Mais au moment où vous arrivez à l'association en mémoire d'outre-mer, c'était pas du tout le cas. Parce qu'il y avait des choses qui étaient encore tabous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment, par votre travail avec l'association, vous avez réussi à décanter tout ça petit à petit.
Petit à petit, nous étions menés par M. Octave Sestor avec ses convictions, sa force de conviction. Et nous étions une équipe aussi solidaire, jeune, dynamique. Et on ressentait cette chape qui nous empêchait d'évoluer malgré nos capacités dans certains domaines. Donc, M. Clarcetier nous a fait comprendre qu'il y a une manière d'évoluer, c'est d'être fort dans nos têtes, de nous connaître nous-mêmes, de connaître notre histoire. Et notre histoire, c'est être solidaire pour mener ce combat à Nantes afin de faire ce réveil de conscience. Dans la période forte du commencement de ces manifestations, ça s'appelait le réveil de conscience. Donc ça veut dire parler déjà entre nous-mêmes, entre Antillais, parce que les Antillais, on n'était pas prêts non plus. Chacun dans ses occupations. Donc il fallait ramener, les chercher, les ameuter, les préparer à des manifestations. Nous faisions des manifestations. Jusqu'au jour où nous avons décidé de faire une gerbe de fleurs en mémoire de nos aïeux qui sont été jetés en mer à la Loire. Et donc nous avons fait gerbe de fleurs. Et c'était cette fleur qui était très intense. Nous avons quand même emmené au moins 150 personnes antillais à cette manifestation. Et c'est un geste qui a perduré pendant très longtemps, mais tout le temps. Il y avait des activités qui se faisaient, il y avait des prises de conscience qui se faisaient. Et nous devenons de plus en plus compris. Bien sûr, pour la municipalité de ce temps-là, pas encore. Donc, ils ne savaient pas pourquoi nous étions toujours nous rassemblés, pourquoi on avait ça, on n'avait pas de locaux, on n'avait pas tout ça. Mais les choses ont beaucoup évolué après, beaucoup évolué.
Alors, deux petites questions pour resituer temporellement tous ces événements. À quel moment vous avez donc rencontré l'association ? À quel moment vous êtes rentré dedans ? Et à quel moment le lancement des gerbes de fleurs a commencé ?
Mais ce jet de fleurs, on a dû commencer dans les années, je ne sais pas, les années 80. Et donc, ce jet de fleurs nous a poussé à aller plus loin. À revendiquer des choses que nous recherchions, par exemple, comme la date du 27 avril 1948, c'était une date qui était une date comme quelconque. Non, nous lui avons donné une dimension, ce qui fait qu'à cette date du 27 avril, que tous les années, nous allions jeter les gerbes de fleurs et qu'on donne rendez-vous à la population nantaise d'être avec nous. Et nous avons vu petit à petit, ou la prise de conscience de la communauté nantaise même, qui venait et qui s'appropriait aussi notre histoire, puisque l'association était aussi, devenait une association importante de Nantes, avec des composants de Nantais. Donc le métissage commençait à prendre place, les gens devaient prendre conscience du rôle qu'on jouait, toujours, on jouait à Nantes. Et c'est pourquoi, avec le temps, des manifestations de plus en plus importantes, de plus en plus fortes, des revendications de plus en plus fortes aussi. Nous avons fait une stèle ici à Nantes, juste en face de la maison de l'Outre-mer. Mais avant, nous avions aussi construit ce qui était la première maison de l'Outre-mer. Donc c'est de là qu'a commencé quand même la grande aventure à Nantes sur la mémoire.
Juste pour préciser, la date du 27 avril 1848, à quoi elle correspond? Et vous m'avez dit que le premier lancement de gerbes de fleurs dans la Loire ne s'est pas fait sans difficulté.
Non, ça ne pouvait pas se faire sans difficulté parce que les responsables de la ville ignoraient pourquoi on faisait un tel geste comme ça, rassembler une communauté, jeter des gerbes de fleurs. Nous faisions tout cela dans la dignité, avec le respect. C'est fait à mesure, petit à petit, que les prises de contact se sont faites avec la ville. Et notre monsieur Classestor et ceux qui étaient à côté de lui ont rencontré la ville et ont expliqué notre démarche. Notre démarche n'était pas de provocation, mais de parler de notre histoire, parler de notre mémoire, de parler de notre identité. Et qu'il fallait qu'au moment donné, que les choses se fassent. Et oui, nous avons été écoutés jusqu'au jour où nous avons décidé à nouveau de faire la stèle qui a été mise en place dans le cadre de la 150e année d'abolition de l'esclavage, où cette stèle a été écrasée, elle a été vraiment brisée. Mais heureusement, c'est à ce moment même que la population qui était très présente lors de ces différentes manifestations ont été très touchés de tout cela. Et en ce moment, il y avait des journalistes à Nantes qui étaient venus dans le cadre de cette commémoration de la 50e manifestation et qui sont venus autour de cette stèle qui a été endommagée. Et M. Hérault, qui était le maire de Nantes, nous avait promis à ce moment précis devant les journalistes que plus jamais un tel scandale ne se ferait et que la ville de Nantes prenait la décision de créer le mémorial. Et là, le visage culturel, identitaire de Nantes a changé.
On commençait à prendre possession déjà du quai de la Fosse, hein, puisque avant même l'association Mémoire de l'Outre-mer, juste à côté, vous laisse en parler.
Nous étions une association où on faisait beaucoup de manifestations, nous étions présents un peu partout. Nous partions dans les autres villes pour présenter l'association Mémoire de l'Outre-mer. Nous représentions vraiment le visage des Antilles à travers la danse, les repas, tout cela. Et ça nous faisait une rentrée d'argent. Et ça nous a permis de créer cette maison, la maison de l'Outre-mer, qui est la première maison, l'Outre-mer qui est là, ce qui a été quelque chose de très fort, puisque là-dedans, nous avons reçu, dans le cadre de la Coupe du Monde de football, toutes les équipes africaines qui sont venues, qui étaient leur siège. Nous avons laissé ce lieu, Cameroun surtout, en 98. Et à la suite de ça, eh bien encore, nous avons continué à évoluer, à mener des combats. Nous avons aussi voulu aller encore plus loin, c'est-à-dire nous reconnaître notre histoire à travers une date particulière qui était la date du 10 mai. Chose qui n'était pas tout à fait évidente. C'était très très chaud, très très chaud à faire comprendre pas les Nantais, mais tous les Antillais de France, que nous nous battions pour une date commune. Une date où que ce ne soit pas une date que pour nous les Antillais de Nantes, mais que pour la France entière, pour qu'il y ait une connaissance plus globale, plus générale de notre histoire. Parce que nous savions qu'à un moment donné, dans la tête des gens, les gens pensaient que c'était l'histoire de Nantes. Non, ce n'est pas l'histoire de Nantes. C'est l'histoire de France. Qui dit l'histoire de France, c'est-à-dire être connu de partout dans les écoles. Donc, c'était les lieux où on faisait venir les éminents personnalités pour nous aider à développer ça. C'est pourquoi Mme Toubira, elle est venue à Nantes et nous a écoutés. Et elle est repartie avec tout ce que nous avions dans le ventre, comme nous lui avons dit. 2 ans plus tard, nous avons eu la chance d'avoir cette date du 10 mai.
Pourquoi commémorer, faire mémoire ensemble, se souvenir, sinon pour vivre? Il faut se souvenir par exigence de vérité, par loyauté envers celles et ceux qui ont souffert, ont subi, résisté, se sont battus, ont marronné au nom de la liberté. Par loyauté aussi envers celles et ceux qui
sont en 2006 que la date du 10 mai devient la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de l'abolition. Mais l'aventure n'est pas finie, puisque l'aventure continue loin de Mémoire de l'Outre-mer. Un moment, vous avez quitté cette association avec laquelle vous avez fait énormément de choses pour rejoindre l'association Métis à Nantes, ou pas exactement encore Métis à Nantes d'ailleurs, mais je vous laisse raconter un petit peu ce changement.
J'ai quitté ce Mémoire Outre-mer pour la construction de ce lieu. On avait les moyens financiers pour faire autre chose. J'étais le vice-président, je suis assez vice-président très longtemps à Mémoire d'Outre-mer. Nous avons vu par expérience les difficultés que nous avions dans notre communauté de trouver une salle, de trouver un lieu de se rassembler sans pour cela aller courir, mendier à la ville. Moi, dans ma tête, je suggérais qu'on ait de l'argent, puisqu'on a de l'argent, d'aller à l'extérieur de la ville, construire un lieu qui deviendrait notre base, comme ici, avec possibilité que quand celui qui voudrait réserver pour leurs enfants, pour mariage, pour tout comme ça, savent où aller, où frapper. Mais ce n'était pas du tout la politique de monsieur Octave Sestor. Ben, moi, je me suis senti frustré de ça. Donc, je dis, bon, ben écoutez, par contre, je suis toujours resté fidèle à monsieur Octave Sestor, qui est mon père spirituel, que j'adore. Ce qu'il m'a appris, c'est la loyauté, c'est l'engagement. Et quel que soit l'endroit où je suis, c'est toujours ça qui est avec moi. Alors, quand j'ai quitté l'association Mémoire de l'Outre-mer, j'ai rejoint une autre association qui s'appelait AKGR, dont le président, c'était aussi des élèves de M. Claude Sestor, parce que lui, il était le trésorier. Le président de l'association Bateau Coq Nomade, puisque c'est lui, d'ailleurs, lui, qui est venu me chercher pour me rencontrer avec M. Claude Sestor. Ils sont restés très longtemps, côte à côte. Et donc, après, j'ai allé le rejoindre là-bas. C'est, voilà les raisons que j'ai quitté, mais toujours avec dans la tête la continuité de ce travail de mémoire qui est très important pour nous.
Quel était l'objectif, enfin quel est toujours d'ailleurs, l'objectif de cette nouvelle association à l'époque, Métis à Nantes?
L'objectif dans ce temps-là, c'était une association de danse. Il s'appelait AKGR. La danse vraiment le ballet traditionnel, hein, traditionnel. Oui, c'était un très bon groupe, hein, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme dans toutes les associations, le président qui était et moi-même, qui suis venu le vice-président, eh bien, nous avons beaucoup évolué dans les démarches d'association. Nous n'en restions pas seulement à la danse, mais nous voulons construire des choses. Et de l'association de Métis à Nantes a été amené un projet qui est énorme. C'était la volonté de construire un bateau pédagogique. Donc le bateau pédagogique a été mené par M. Boutrin, Dieudonné Boutrin. C'est un travail qui a été de longue haleine, bien mené. Mais à un moment donné, devant la réalité du prix, du revenu de tout cela, M. Boutrin a dû changer de cap. Et il a changé pour prendre la coque nomade. Mais entre-temps, le Métis à Nantes devenait une association trop, trop importante. M. Boutrin ne pouvait pas gérer le Métis à Nantes et le bateau. Donc, il est venu le président du bateau pédagogique et moi, je suis venu le président de l'association Métis à Nantes. Donc, lui, il continuait la construction du bateau. Nous, on continuait à faire le travail social dans le quartier, mais toujours avec l'identité Métis à Nantes. Et là, vu que pour des raisons financières que nous étions obligés de séparer les choses, donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a l'association pédagogique, l'association Mémoire Métis à Nantes, mais quand même tout le travail du bateau de Coq Nomade, tout ça, est l'enfant de Métis à Nantes. Monsieur Boutrin, quand il a construit le bateau de Coq Nomade, il était malade, il était à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il a construit le bateau, sur le lit de l'hôpital. Que je lui amenais un crayon et une bique pour qu'il travaille. Mais je lui disais, mais tu t'es malade, arrête. Non, tout le plan, il l'a fait pendant qu'il était à l'hôpital.
Alors, maintenant, Métis à Nantes est basé dans le nord de Nantes, dans les quartiers nord de Nantes. Ça aussi, le fait d'être basé là-haut répondait à des besoins particuliers, parce que effectivement, l'association Mémoire d'Outre-mer était vraiment au centre-ville. Là, on arrive sur un autre quartier avec une autre population. Comment Métis à Nantes s'est adapté et a réussi à mettre tout le monde ensemble pour faire des choses.
Comment nous avons réussi? Moi, je pense que c'est le côté fédérateur de certaines personnes d'entre nous. Quand on est un bon fédérateur, quand vous n'êtes pas un chef, mais que vous êtes un leader, les choses passent bien. Je pense qu'il y a trop de chefs, il n'y a pas assez de leaders. Et j'ai la chance, car aujourd'hui, même à Métis à Nantes, comme vous le voyez, je suis accompagné avec des gens qui ont plus de 20 ans qui sont autour de moi. Donc, je suis l'un des présidents les plus heureux du monde. Et il y a beaucoup de monde autour de l'association Métis à Nantes. Et pendant toute cette période avec M. Dujoni Boutrin, nous avons fait des choses très, très fortes. Nous avons quand même fait un travail sur la continuité de Mémoire de l'Outre-mer. Tous les ans, nous faisions un festival d'histoire d'avenir. Pendant 14 ans, nous avons animé. Nous avons d'abord animé dans le quartier avec des festivités, avec des carnavals, avec tout ça. Nous avons mobilisé les gens du quartier et nous sommes dit, mais pourquoi ne pas aller dans le centre-ville maintenant? Pourquoi nous, les gens du haut, on ne va pas en plein centre-ville faire des manifestations? Et ils nous ont suivis. Et nous avons fait notre premier festival d'histoire d'avenir à Nantes. Ça a duré 3 jours avec la population, les bénévoles du quartier nord. Et de ces bénévoles du quartier nord, nous sommes restés 14 ans à le faire. Mais Métis à Nantes a été de ceux qui ont fait les plus grandes manifestations de mémoire. Parce que c'était un lieu, ce n'était pas un lieu seulement de festivités, c'était un lieu de partage, de rencontres, de pédagogique, où on trouvait tout ce que la culture avait. C'était des grands moments.
D'ailleurs, pourquoi l'avoir appelé Métis à Nantes? Il y a une histoire derrière.
Je me rappelle que lorsque l'association AKGR a voulu changer de nom, nous avons fait une réunion et c'est lors d'une assemblée générale que nous avons souhaité qu'elle change de nom, mais nous ne savions pas quel nom qu'elle allait donner. Mais par contre, ce qui était important pour nous, c'est que nous savions l'importance du métissage qu'il y avait à Nantes. Et le métissage, c'est une richesse. Et c'est lors de cette réunion qu'il y a quelqu'un qui a levé la main puis qui a dit « Pourquoi pas Métis à Nantes ?» Métis à Nantes, dans le quartier nord, est devenue une association très respectée où nous faisons beaucoup de choses, où nous avons, nous permettons aux gens du quartier à venir en famille, à toutes les manifestations. Nous ne nous arrêtons pas seulement aux manifestations festives, mais nous avons aussi, pendant que nous étions là, fait un travail fondamental au niveau de la mémoire. Nous avons même émis des plaques qui rappellent cette histoire. Nous avons dit que nous allons remettre cette plaque en plaque, nous allons donner une dimension à cette plaque, mais aussi au lieu, dans le lieu où il était, parce que cette plaque-là a été placée entre la médiathèque et le centre socioculturel, bien au milieu. Donc ça veut dire indirectement, mais c'est sa place. La liberté, la culture, l'échange, la fraternité. Il était juste au milieu. Nous avons inauguré cette plaque il y a 3 ans. Et pour cette inauguration, nous lui avons quand même une dimension très forte, puisque nous avons fait venir des enfants de la Guadeloupe, hein, des enfants, des jeunes de l'Afrique qui sont venus aussi, et les gens du quartier présents pour cette belle manifestation. Nous l'avons là, et aujourd'hui, quand on se balade dans le quartier, bien, on trouve ce lieu qui est lieu mémorial. Et les choses ont encore changé, puisque l'année prochaine, ce même lieu prendra une autre dimension. Ce lieu deviendra un lieu mémoriel. Parce que nous sommes dans un quartier, il y a beaucoup d'identités différentes. Ces gens qui sont là, ils ont aussi leur histoire. Ils auraient aimé se recueillir. Ils ont leur date aussi. Alors donc, ce sera un lieu, par exemple, le 4 juillet, on pourra se recueillir. Le 1er mai, on peut se recueillir. Tous les moments forts que nous avons, mais ce sont des lieux aussi qu'on peut accueillir avec ça. Donc tout cela, le 23 mai 2026, elle va prendre notre dimension puisque nous avons fait ça grâce aux écoles, grâce à une école qui s'appelle ERA, que nous avons rencontrée et que ce sont des élèves encore qui ont travaillé autour de ce projet avec nous.
ce projet et puis de nombreux autres, il y a quelque chose qui ressort clairement, c'est la volonté de transmission de la culture, de l'histoire, du patrimoine ultramarin, mais pas que. Selon vous, est-ce que c'est ça l'avenir, la transmission aux plus jeunes, pour que eux-mêmes puissent se transmettre aux plus jeunes, et ainsi de suite, et ainsi de suite?
Oui, je crois que depuis que nous avons rencontré l'association Mémoire Outre-mer, ça a été la volonté de cette association. La transmission, le partage, la connaissance. Parce que c'est là où nous avons péché. C'est pourquoi aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu vraiment une erreur très forte au niveau de nos parents, mais ce n'était pas de leur faute. La faute deviendrait de nous. Car aujourd'hui, nous sommes riches, nous avons des capacités, nous avons du matériel à le faire. Donc nous devons tout faire pour que nos jeunes, nos enfants connaissent leur histoire et soient fiers d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Auparavant, lorsque nous faisions des soirées, nous constations que tous les jeunes parents venaient avec leurs enfants. Ils venaient, les salles étaient remplies d'enfants. Et l'enfant grandissait dans une atmosphère. Parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes que nous avions, mes enfants par exemple, de l'âge de mes enfants, ils ont pris conscience de ces moments forts. Et je les connais, ils sont à Nantes, ils sont partout. Ils sont tous. Il y a un monsieur qui était dans le Guacanca, ses enfants sont dans la vie associative. Arnerin qui est président de l'association, leurs enfants aussi, les miens, c'est aussi dans la vie associative. Donc il y a eu quelque chose de fort qui a été fait dans ce temps-là. Et bien aujourd'hui, on demande aux jeunes quand ils viennent dans des réunions comme ça, n'hésitez pas à amener vos enfants, imprégnez vos enfants de ça. Parce que c'est comme ça qu'ils vont grandir et ils ont envie au moment d'approfondir le peu de connaissances que vous leur donnez. Donc oui, la métisse à Nantes, c'est notre objectif de toujours faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui ont toujours un rapport avec la connaissance.
La Martinique, parce que depuis tout ce temps-là, on est en France, mais la Martinique n'est jamais bien loin, hein, si j'ai bien compris. Bah déjà à travers les actions, mais même à travers la vie personnelle. La Martinique reste le port d'ancrage de votre vie.
Oh ben oui, je ne peux pas, un seul instant de ma vie, oublier qui je suis. En plus, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Alors donc, je suis vraiment imprégné d'amour. Et donc, je n'oublie jamais mon pays, je n'oublie jamais mes frères et sœurs. À Nantes, je suis entouré de gens que j'admire. Et en Martinique, je téléphone assez souvent, puis je contacte. Et on fait toujours tout pour que la Martinique soit avec nous, à côté de nous. Serait-ce par les actions, serait-ce par la volonté de les faire venir nous rencontrer, de nous détendre, d'emmener la chaleur.
Bah justement, en parlant de venir nous rencontrer, donc les amener ici à Nantes aussi, de temps en temps, comment dire, par les différents événements. En parlant de ça, voilà, pour terminer un petit peu, quand on a envie d'être dans une ambiance, dans une culture martiniquaise, hormis les événements des associations, où est-ce qu'on peut se retrouver, si on peut donner un petit tips aux Martiniquais nouvellement débarqués, par exemple?
Moi, personnellement, je suis dans la vie associative. Et moi, je pense qu'à chaque fois que je verrai un Antillais, je lui dirai que s'il veut se retrouver. Mais moi, je ne m'arrête pas seulement Martiniquais. Hein. Je suis Antillais avant tout. Je suis à la Guadeloupe aussi. Je côtoie beaucoup les Guadeloupéens. Je côtoie les Réunionnais. Je côtoie tout le monde. Je sais qu'ils existent. Il y avait des réunions. Si le gars est Réunionnais, ben, je lui dis franchement qu'il y a une association qui s'appelle Arla qui est Réunionnais. Il y a une association Guacanca qui est de la Guadeloupe. Il y en a autre qui s'appelle les Amis du Bélé. Il faut qu'ils aillent dans les associations, qu'ils s'y retrouvent. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations. Donc, ils font le choix de l'association qu'ils veulent adhérer ou être. Mais je pense que si on veut se retrouver de la chaleur de la sauce, de sa source, il faut aller des endroits où on est susceptible de s'y retrouver, de parler son créole, de retrouver son créole. Parce que c'est important, le créole, notre créole à nous, que ce soit tu sois Guadeloupéen ou Martiniquais, on a besoin de parler le créole et il faut aller des endroits où on peut trouver ça.
Peut-être un petit mot d'ailleurs sur le créole, l'importance du créole dans la culture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
L'importance de la créole, c'est déjà une forme d'identité parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous avait interdit de parler le créole. Nos parents ne l'ont pas appris d'ailleurs, ils n'ont pas appris le créole et c'était interdit. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est déjà, nous qui sommes adultes, si nous ne le connaissons pas, et nous avons la mentière, ben, de l'apprendre, d'en parler, d'aller, par exemple, moi, si je trouve des Antillais qui veulent vraiment parler le créole, écrire le créole, ben, moi, je suis tout prêt à dire que j'ai des lieux pour faire ça. J'ai beaucoup d'activités, je le sais, mais je pense qu'on peut faire de façon à ce que les gens parlent et s'expriment en créole, ils retrouvent leur vie à travers ça. Le créole, oui, c'est important, très important d'échanger. Et à chaque occasion, quand nous avons à nous rencontrer, eh bien, c'est bien de parler en créole. Tout à l'heure, nous avons parlé de rencontrer nos compatriotes. Mais c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Nos compatriotes avaient l'habitude de venir un peu partout en France. Ils n'étaient jamais venus à Nantes. Ils sont venus à Nantes et ils étaient très, très contents, très, très fiers. Nous avons été surpris de nos capacités d'animation. On les avait vus, on les a attendus. La salle était super comble. Nous en sommes très fiers d'avoir emmené les Nantais à cette soirée. Et donc, je pense que l'année prochaine, ben, je serai fier et heureux de savoir que d'autres associations font la même chose pour faire venir des gens comme ça, pour qu'on mette encore le feu et la joie à Nantes.
Eh bien, parfait, ce sera le mot de la fin. Merci pour tout, Nicolas Chérizet-Côté. Merci d'avoir partagé votre parcours, vos expériences avec tous les auditeurs. Et je donne rendez-vous aux auditeurs le mois prochain pour un nouvel épisode de Toute Moune. Oh, okay.